Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Bonjour à tous et bienvenue au podcast 9-1 Behind the Scene, le podcast québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Mon nom est Marie-Ève et je suis votre hôte et répartitrice 9-1 depuis plus de 7 ans. J'aimerais ça dire un beau bonjour aussi à ceux qui me regardent sur Patreon. Ça fait bizarre, mais c'est nouveau, je vais vous en parler à la fin. Ceux qui sont sur Patreon peuvent me voir en enregistrement vidéo. Je suis vraiment excitée de commencer la troisième saison avec vous. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, comme d'habitude, j'ai pensé que ça a passé trop vite. J'ai eu le temps de voir des amis podcasteurs de True Crime, ça c'était vraiment le fun. Sinon, ben, du soleil puis ben du travail. Le 6 octobre, ben là, pour ceux qui écoutent le 7, c'était hier. Et pour ceux qui écoutent le 1er sur Patreon, c'est dans une semaine. Mais le 6 octobre, ça fait un an que 9-1 Behind the Scene existe déjà. Puis c'est fou à quel point je pensais pas être là aujourd'hui, un an plus tard. Quand je repense à ça, je me disais que ça allait probablement pas intéresser le monde. Puis qu'au pire, ben, j'allais juste comme faire une saison. Mais nous voilà un an plus tard. Puis grâce à vous, on commence la saison 3. Pour commencer en force, aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Siobhan et Zari Thomas. Le cas d'aujourd'hui me fait beaucoup penser à celui de Oti Garcia Sanchez dans la saison 1, l'épisode de la mère qui a mangé son enfant. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de cannibalisme aujourd'hui, mais j'aimerais faire un trigger warning pour ceux et celles qui sont sensibles aux histoires troublantes concernant les enfants et aussi aux sujets qui touchent la santé mentale et les problèmes de consommation. Si jamais c'est le cas, je vous en voudrais pas. Vous pouvez skipper cette semaine, on se revoit la semaine prochaine, ben dans 2 semaines. Le but de ce podcast-là, il n'est pas de troubler le plus de gens possible, mais bien d'informer. Mes sources pour aujourd'hui proviennent du Philadelphia Inquirer, le Daily News et des vidéos YouTube. Zari Thomas est née le 11 décembre 2009 à Camden, au New Jersey. Sa mère, Siobhan Thomas, était dans le début de la trentaine. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les deux avant l'incident, malheureusement, mais tout ce qu'on sait sur Siobhan, c'est qu'elle a gradué de l'école secondaire Northeast en Philadelphie, qu'elle avait une fille plus vieille, puis qu'elle était une très bonne mère selon ses parents, puis ses voisins. Siobhan a été diagnostiquée avec des problèmes de santé mentale, dont un trouble de bipolarité et de dépression. Elle prenait des médicaments, fait que ça l'aidait pour son quotidien. Elle prenait entre autres du Wellbutrin, qui provient du bupropion, un psychotrope généralement prescrit pour la dépression. Il va agir en influant les substances chimiques produites naturellement dans le cerveau. Apprenez aussi du Prozac, qui est un antidépresseur aussi appelé fluoxétine, qui est aussi un psychotrope, mais qui agit comme inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Pour finir, apprenez de l'Abilify, aussi appelé aripiprazole, qui est un antipsychotique atypique, prescrit dans le traitement des épisodes mixtes associés aux troubles bipolaires. je voulais pas vous faire un cours de bio, mais c'est important pour moi de donner une petite description de médicaments pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre dans quel état se trouvait Siobhan lors des événements. En novembre 2010, soit 11 mois après la naissance de Zari, Siobhan est retrouvée au milieu de la rue en pleine crise de panique. Les policiers sont allés la voir, puis elle leur a avoué qu'elle avait fumé de la marijuana mélangée avec du PCP, puis qu'elle ne se souvenait plus où elle avait mis son bébé. Selon le site du gouvernement du Québec, le PCP est décrit comme étant un hallucinogène très puissant à propriétés dissociatives qui agit sur les sensations et la perception de la réalité. Il a été créé au début pour servir d'anesthésie lors des opérations. Sur le site internet, on peut y lire, et je cite, « Le PCP diminue ou fait disparaître la capacité à ressentir la douleur de même que la sensibilité dans tout le corps. Il produit ainsi un effet semblable à une anesthésie générale. Il produit également un effet dissociatif, c'est-à-dire qu'il peut induire un état de dissociation entre le corps et l'esprit dans lequel, à faible dose, la personne est consciente de ce qui se passe, mais ne se sent pas impliquée physiquement ou émotionnellement. Elle se perçoit comme observatrice de ses propres actions. De plus, le PCP aurait tendance à provoquer des comportements antisociaux et violents. Le PCP peut 1. Modifier les réflexes naturels du corps comme les battements du cœur, 2. Causer des dommages irréparables au cerveau, 3. Rendre agressif, impulsif et violent, 4. Diminuer la mémoire à moyen et à long terme, et 5. Entraîner des troubles psychologiques, anxiété, crise de panique, dépression, psychose ou pousser même au suicide, aussi bien en cas d'usage régulier que lors d'une surdose. Pour poursuivre avec l'histoire, le petit Zari a été retrouvé sain et sauf chez un voisin, heureusement. Ce dernier avait trouvé le bébé dans une voiture stationnaire, mais il ne savait pas où se trouvait la mère. Il a juste vu le véhicule au beau milieu d'un stationnement de magasin avec le bébé dedans. Siobhan a été arrêtée et accusée d'avoir mis la vie de son enfant en danger. Elle a été reconduite à l'hôpital universitaire Cooper et Zari fut confiée à ses grands-parents maternels par la protection de la jeunesse. 9 mois plus tard, soit en août 2011, Siobhan a retrouvé la garde de son fils après avoir suivi une thérapie pour ses problèmes de consommation et pour ses troubles de santé mentale. Elle allait à tous ses rendez-vous, soit de 2 fois par semaine, selon sa mère Jerlyn, et elle a reçu la visite d'une intervenante de la protection de l'enfance à quelques reprises. Celle-ci a déterminé que Siobhan était apte à s'occuper de son garçon. Seulement 1 mois après avoir eu la garde, Siobhan a été testée positive au PCP et à son test d'urine. Zari a été repris et placé chez ses grands-parents encore. Jermaine et Wendell Birch, les parents de Siobhan, ont pris grand soin de leur petit-fils. Zari était né prématurément, puis a eu besoin de beaucoup d'attention et de différentes opérations. Ce sont ses grands-parents qui ont été là pour lui et qui sont restés à l'hôpital avec lui. Il idolâtrait Buzz Lightyear dans l'histoire de jouets, puis aimait boire son petit verre de jus de raisin avec à côté sa boîte de céréales bien étendue dans son mini Lazy Boy pour enfants. En avril 2012, Zari a été retourné à sa mère à nouveau, et c'est le 22 août 2012, peu après minuit, que Siobhan Thomas a placé un appel au 911. Dans cet appel, on y entend une Siobhan complètement déconnectée de la réalité. Elle dit au répartiteur que son copain a poignardé son enfant. Le répartiteur lui demande plus d'informations, comme son adresse, son nom, etc. Puis a fini par dire « Tu sais quoi? Je l'ai fait. J'ai menti. » Il demande si elle a besoin d'une ambulance, puis elle répond que non. Le répartiteur continue de poser des questions, mais Siobhan semble partie dans son délire, puis elle répète plusieurs fois la même phrase du genre « Tu sais quoi? Tu sais quoi? » Il lui demande quel âge a son fils, et elle répond « Oui. » Donc on voit qu'elle comprend pas très bien les questions qui y sont demandées. Là. Elle finit par dire qu'il a 2 ans et qu'il a été poignardé avec un couteau. Il demande si son fils a un saignement. Elle répond qu'il saigne, mais pas tant que ça. Le reste de l'appel, Siobhan descend encore plus dans son délire puis elle se répète. Elle dit qu'elle doit trouver de l'argent. Elle dit « Fais ce que t'as à faire, fais-le, je le savais. » Une répartitrice reprend l'appel et essaie de la ramener en lui demandant son adresse et lui demande si elle prend des médicaments. Siobhan dit qu'elle prend des Prozac, mais qu'elle les a pas pris cette journée-là. Mais petite parenthèse, encore un petit cours de bio, c'est pas ça le but, mais bon, c'est pas un oubli d'une journée qui peut faire une grosse différence. C'est pas un oubli d'une journée qui peut entraîner quelqu'un en psychose. C'est vraiment le mélange qu'elle a fait avec la drogue. Finalement, elle répète, continue de penser ça, puis elle finit par accrocher. Je vais vous faire entendre l'appel 911 au complet. Je mets encore un avertissement parce que Siobhan Thomas était dans un délire psychotique et l'appel est quand même troublant. Donc, si vous êtes sensible au sujet de troubles de santé mentale ou tout ce qui a trait à ça, je vous conseille de passer l'appel parce que ça pourrait être un peu trop pour vous.
No.
Quelques minutes après, les policiers sont arrivés sur les lieux. La maison était vide, silencieuse. Ils ont vite fait la macabre découverte du corps de Zary Thomas sur le sol. Le petit garçon gisait dans une mare de sang, et le plus épouvantable, c'est que sur son corps, il ne restait plus de tête. La tête du petit garçon a été retrouvée pas très longtemps après dans le congélateur de la maison. Aucun signe de Chevonne, prime abord. Les policiers montent au deuxième étage et ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un dans la chambre à coucher. Chevonne Thomas était décédé sur le plancher et s'était violemment poignardé dans le cou avec un couteau. Selon une voisine, Melanie Troutman, Chevonne aurait été vu avec son copain vers 22h30 sur le balcon en avant, puis il semblait se disputer. Chevonne était seins nus puis il paraissait affolé. Peu de temps après, son copain l'a emmené à l'intérieur de la résidence. Il y aurait une chicane qui aurait éclaté puis il serait parti pas longtemps après. Ce serait suite à son départ que Chevonne aurait commis l'irréparable. J'ai vraiment essayé de trouver de l'information sur le dit copain, mais j'ai absolument rien trouvé, malheureusement. Je trouve ça quand même étrange parce qu'il a été le dernier à avoir parlé à Chevonne à l'avoir vue vivante. Probablement qu'il voulait pas que son identité soit révélée ou je ne sais pas trop. L'autopsie a démontré que le petit Zary était malheureusement vivant lorsque sa mère l'a décapité. C'est affreux, c'est épouvantable. Donc, elle aurait découpé en morceaux pendant qu'il est encore en vie et ça me brise le cœur, je suis sûre que vous autres aussi. Pauvre petit garçon de 2 ans qui voulait juste... Il voulait juste être aimé par sa mère et avoir son attention puis d'être rassuré tout ce temps-là. T'sais, il a vécu toute sa jeune vie en se faisant enlever des bras de sa mère pour être remis à ses grands-parents qui l'aimaient plus que tout son cœur. Mais après ça, d'être retourné en sa mère puis re-enlevé par la suite, c'est comme jouer au yo-yo avec un petit être. Ça n'a aucun bon sens. Tout ça, là, en 2 ans et demi. La question qui demeure sur toute l'élève encore, c'est est-ce que ça aurait pu être évitable? Si le gouvernement avait vraiment pris en charge Chevonne, qui avait pris en charge son dossier, qui lui avait donné un suivi approprié sur une plus longue période, est-ce que elle et son fils seraient encore en vie? En même temps, il y a une expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Peut-être que toutes les ressources possibles ont été données à Chevonne, mais qu'elle les a pas prises. Je sais pas ce que les gens atteints de problèmes de consommation vivent au quotidien, mais j'imagine que le chemin est réellement ardu. C'est un combat contre toi-même à chaque jour, puis si tu mets en plus un trouble de santé mentale dans tout ça, je peux juste penser que le combat, ben, il est encore plus essoufflant. Les parents de Chevonne pensent que le gouvernement a carrément délaissé leur fille et qu'elle n'avait pas eu un suivi assez serré. C'était une très bonne maman. Depuis son enfance, rien aurait pu laisser croire qu'elle aurait pu commettre un geste comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Vous pouvez m'écrire votre opinion là-dessus, pour vrai, je serais vraiment curieuse de vous lire. Je pense jamais à vous demander votre opinion, mais je serais vraiment curieuse. Pour ce qui est de l'appel 911, on peut y entendre deux répartiteurs, dont le premier semble, et je dis semble parce qu'on est en 2022 et je veux pas présumer, semble être un homme. Avant que le répartiteur réponde, on dirait qu'on entend une voix en arrière-plan, comme si Siobhan parlait vraiment à quelqu'un. Pourtant, ce copain était déjà parti. C'était peut-être la télé ou c'était peut-être l'arrière-plan de la répartition parce qu'on entend quand même beaucoup de brouhaha. Je sais que l'enregistrement était pas facile à écouter. Le répartiteur lui demande les principales questions importantes, mais je trouve qu'il manque un peu d'empathie dans son ton de voix. Il fait comme robotique, je trouve. Clairement, qu'il se rend compte que son appelante est déconnectée de la réalité, mais il dit rien pour la rassurer. Il continue avec ses questions. C'est pas mauvais en soi, là, parce qu'il doit s'assurer d'avoir les bonnes infos pour que les policiers s'en aillent. T'sais, les policiers s'en vont quand même sur un appel de meurtre. Puis d'un autre côté, t'as pas vraiment envie de sortir ta carte de l'empathie quand la personne vient de te dire qu'elle a tué son enfant de 2 ans. Mais bon, il répète le nom de son appelante pour la ramener, puis ça semble fonctionner. Puis il y a un bout après qui dit que les policiers s'en venaient l'aider. Où Siobhan parle toute seule, puis elle escalade dans son délire, là, c'est dans ce coin-là. On entend le répartiteur parler en arrière à ses collègues, puis là, il y a une deuxième répartitrice qui prend le contrôle de l'appel. Elle est encore plus directive que le premier, puis elle obtient pas tant plus d'informations, mis à part la partie du Prozac. Mais elle essaie de recentrer son appelante quand même, malgré le fait qu'elle est complètement déconnectée jusqu'à ce qu'elle raccroche. Je sais pas comment, moi, je réagirais. Si j'avais ce genre d'appel où une dame m'avouait avoir poignardé son bébé, tu peux pas savoir tant que ça t'arrive pas, pour vrai, pis ça, je sais que je l'ai déjà dit. Vous réagirez comment? Comme, vous travaillez au 911, vous recevez des appels, puis tout d'un coup, vous avez ce genre d'appel-là, une femme qui est mentalement instable et qui vous avoue avoir poignardé son enfant. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Elle a été courte. Je sais, je dois étirer mes épisodes, mais c'est parce que je veux pas qu'il y ait trop de longueur non plus. Merci d'avoir été là. Je sais que c'était un sujet qui était vraiment sensible pour tout le monde, en fait. Mais je trouve ça important de parler des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation, puis des enjeux reliés à ceux-ci. À quel point que ça peut exploser à n'importe quel moment. Si vous avez des problèmes de consommation, vous pouvez consulter. Il y a plein de ressources disponibles pour vous, pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale aussi. Vous avez plein de ressources à votre disposition également. Je ne les ai pas devant moi, malheureusement, j'aurais voulu les donner, mais je les mettrai en barre d'infos dans la description de la vidéo pour que vous puissiez lui accéder facilement. Comme je disais au début de l'épisode, il y a une nouvelle chose cette saison-ci. Vous pouvez maintenant vous abonner au Patreon 91 Behind the Scenes pour avoir accès aux épisodes d'avance, voir les enregistrements vidéo des épisodes, avoir accès à des lives. Je vais créer aussi un e-book sur comment devenir répartiteur, qui est pour vous donner des trucs si vous voulez le devenir, et plein d'autres choses. Je vous laisse le lien aussi dans la description. Puis je vous dis un gros, 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 gros merci d'être là. Puis de m'encourager aussi, parce que sans vous, ça serait vraiment impossible. Je voudrais aussi dire merci à tous mes amis podcasteurs, les gars de Distorsion, les filles de Captive, les gens, des petites frousses, Pleine Lune, un peu de crime dans mon café, crime de bine, tous ces gens-là merveilleux avec qui j'ai pu avoir des conversations, puis qu'on se tient vraiment, puis c'est vraiment le fun, le monde du true crime sur le podcast québécois. Donc, on se revoit dans 2 semaines, puis je vous aime d'un amour infini. Et passez de très belles semaines. Bye!